Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers frères en Saint-Dominique, bien chers séminaristes, bien chers fidèles, bien chers enfants, quand nous regardons le monde autour de nous, que ce soit le monde de la société civile ou l'Église, nous avons l'impression que le monde est en train de devenir fou, qu'il perd la raison. Où trouver un contrepoison? Eh bien, l'Église nous le propose aujourd'hui en saint Thomas d'Aquin, modèle de sagesse, la sagesse étant le contraire de la folie. Nous avons entendu dans l'Épître tout à l'heure, « Optavi et venit in me spiritus sapientiae ». J'ai demandé, j'ai désiré, et l'esprit de sagesse est venu en moi. Et le pape Pie XI, dans l'encyclique Studiorum Ducem, qu'il a consacré à saint Thomas d'Aquin, dit ceci: l'élément le plus caractéristique de la sainteté de Thomas est l'alliance des deux sagesses acquises et infuses. Car il y a deux sortes de sagesse. La sagesse acquise, que nous acquérons par notre travail, et la sagesse infuse, qui nous est donnée par Dieu. Et la sagesse acquise elle-même est double. Il y a la sagesse philosophique et la sagesse théologique. Saint Thomas d'Aquin a cultivé la sagesse proprement humaine ou philosophique. Et cette sagesse, il a su la fonder sur sa vraie base, qui est l'être. La philosophie thomiste est une philosophie réaliste, qui s'appuie sur l'être réel existant sous nos yeux. Ce qui tombe d'abord dans l'intelligence, c'est l'être, dit saint Thomas dans son langage lapidaire. Id quod primo cadit in intellectu, est ens. Saint Thomas ne met pas la pensée en premier, comme le fera Descartes. Je pense, donc je suis. Donnant naissance à la philosophie moderne, qui est une philosophie de la conscience, une philosophie subjective, et qui finit par se détruire elle-même en ayant perdu son point d'appui, l'être. Cependant, tout en donnant à la raison sa vraie grandeur, celle de pouvoir connaître la réalité telle qu'elle est, saint Thomas ne l'a pas non plus trop exaltée. Il n'a pas fait de somme philosophique, ni même de grands traités de philosophie. Il a préféré utiliser la philosophie dans le cadre de la théologie, selon la formule « philosophia » Ancilla Theologiae. La philosophie est la servante de la théologie. Or, servir Dieu, c'est régner. Mettre la philosophie au service de la foi, c'est lui faire gagner de la noblesse, tout en rappelant à l'homme que la raison n'est pas une déesse qui doit tout se soumettre. Saint Thomas d'Aquin accordait plus d'importance à la deuxième sagesse acquise, la sagesse théologique. Qu'est-ce que Dieu? Demandait le petit Thomas au moine du mont Cassin. Et cette question restera la principale de toute sa vie. Dieu est l'objet de ses pensées. Dieu est le sujet de la science sacrée qu'il veut cultiver. Dans la doctrine sacrée, écrira-t-il, on traite tout sous la raison de Dieu ou du point de vue de Dieu, soit que l'objet d'étude soit Dieu lui-même, soit qu'il ait rapport à Dieu comme à son principe ou comme à sa fin. Autant sa philosophie est centrée sur l'être, autant sa théologie est centrée sur Dieu. Cela peut paraître une évidence, mais il faut savoir qu'avant saint Thomas, les études théologiques se faisaient en commentant le livre des Sentences de Pierre Lombard, qui suivait un autre plan, puisqu'il était divisé par rapport à la volonté de l'homme. Sapientis est ordinare. C'est le propre du sage de mettre de l'ordre. Saint Thomas a ordonné parfaitement sa somme théologique, comme le remarquent à l'envi les commentateurs. Dieu vu en lui-même, puis la procession des créatures à partir de Dieu, ensuite le mouvement de la créature raisonnable vers Dieu, qui forme la théologie morale, enfin le Christ, voie qui nous conduit vers Dieu. La somme théologique donne l'habitude de tout juger par rapport à Dieu. Par exemple, quand saint Thomas d'Aquin cherche quelle est la fin, quel est le but de la vie spirituelle, il répond que c'est la perfection de la charité. Car, dit-il, la charité nous unit à notre fin dernière, qui est Dieu. Il donne donc à la charité sa place, qui est la première, et en quelques mots, il donne la raison profonde, parce qu'elle nous unit à notre fin, qui est Dieu. Avec la sagesse acquise, philosophique et théologique, saint Thomas d'Aquin a possédé aussi éminemment la sagesse infuse. Celle-ci, nous dit saint Jacques, descend d'en haut, du Père des Lumières. Le don de sagesse est causé par la charité, qui unit à Dieu et qui produit entre l'âme et Dieu une compassion, une connaturalité qui permet de juger et d'ordonner les choses comme Dieu les juge et les ordonne. Mais comme saint Thomas ne devait pas seulement être sage pour lui-même, mais encore enseigner la sagesse, en plus du don de sagesse, Dieu lui a donné le charisme que saint Paul appelle « sermo sapientiae », le langage de sagesse. Ce langage de sagesse célébré par saint Paul, dit encore Pie XI dans Studiorum Ducem, en qui a-t-il eu plus d'éclat que chez le docteur angélique? Lorsque saint Thomas d'Aquin parle de ce langage de sagesse dans la somme théologique, il explique que ce charisme a pour effet de donner une efficacité à la parole du docteur. Il l'aide à enseigner, docere, à plaire, délectare, et à fléchir, flectare. La première tâche du docteur est évidemment d'enseigner, d'instruire l'intelligence, instruere intellectum. Et il n'y a pas de doute que les œuvres de saint Thomas d'Aquin soient particulièrement instructives. Jean 22, le pape qui a canonisé saint Thomas, disait « On apprend plus avec saint Thomas en une année qu'avec tous les autres saints ensemble pendant toute la vie. » Et la raison nous est donnée par le pape Léon XIII. Pour avoir profondément vénéré les saints docteurs qui l'ont précédé, il a hérité en quelque sorte de l'intelligence de tous. Mais le docteur doit aussi plaire, movere affectum, non pas pour son propre intérêt, propter favorem sum, mais pour que les auditeurs aient plaisir à écouter la parole de Dieu. Là encore, saint Thomas brille par sa capacité à captiver l'attention. On l'avait remarqué de son vivant. Guillaume de Tocqueau, un de ses contemporains, écrivait « Il savait provoquer plus qu'aucun autre les écoliers à l'amour de l'étude par la clarté de son exposition. Sa doctrine lumineuse et claire fit fleurir plusieurs maîtres religieux et séculiers grâce à sa manière d'enseigner, brève, ouverte et facile. Sa méthode d'enseignement était si nouvelle qu'on la croit avoir été inspirée du ciel en même temps que sa science. Docere, delectare, flectare. Le troisième rôle du docteur, d'après saint Thomas, est de fléchir la volonté pour la porter à vouloir le bien. On sait comment saint Thomas sut convaincre ses sœurs qui étaient venues pour essayer de le détourner de sa vocation de mener une vie sainte. Racontons cette histoire. Saint Thomas était prisonnier dans le château de la famille, ses parents l'ayant capturé pour essayer de le détourner d'être dominicain. Il était novice. Thomas chérissait tendrement ses sœurs, Marietta et Théodora. Elles sont envoyées l'une et l'autre auprès de notre novice avec mission de le fléchir par leurs larmes et de lui faire abandonner la vie religieuse ou tout au moins la profession dans un ordre mendiant. Dociles aux recommandations de leur mère, les deux jeunes personnes rendent à Thomas de fréquentes visites et n'épargnent ni les conseils, ni les prières, ni les témoignages de l'affection la plus touchante pour amollir son cœur et l'amener à des volontés qui leur semblent d'ailleurs très légitimes. Thomas les écoute avec calme, leur répond toujours avec amabilité, justifie sa conduite par des raisons tellement péremptoires que toutes deux ne tardent pas à s'avouer vaincues. Bientôt même, les rôles changent. Thomas attaque à son tour. Ses sœurs étaient venues pour le gagner au monde. C'est lui qui les gagne à Jésus-Christ. Non content de leur expliquer la Sainte Écriture et de les initier au secret de la vie spirituelle, il leur parle en termes si avantageux de l'état de perfection qu'elles songent à suivre ses exemples. L'aînée, qui s'est montrée la plus ardente dans la lutte, prend la résolution de renoncer, aussitôt qu'elle le pourra, aux vanités du siècle pour mériter par la profession religieuse les joies dont son frère l'a entretenue. Nous savons qu'elle tint parole. L'autre imita dans le mariage les femmes saintes que l'Église a placées sur les autels. Stylus brevis grata facundia celsa clara firma sententia. Son style est bref, sa parole gracieuse, sa phrase élevée, claire, ferme. C'est ainsi que la liturgie décrit la prose de saint Thomas. Cette manière simple, directe et convaincante de faire connaître la vérité est capable de mener au sommet de la sainteté, comme le témoigne le très grand nombre de saints et de mystiques qu'elle a suscités, à commencer par saint Jean de la Croix. Comme remède à la folie du monde moderne, mettons-nous donc à l'école de la sagesse de saint Thomas d'Aquin. Et nous savons que saint Thomas a lui-même puisé cette sagesse auprès du siège de la sagesse, Sedes Sapientiae, la Sainte Vierge Marie. Nous avons lu ce matin dans les leçons des matines comment le petit Thomas, il était encore bébé, un jour tenait dans ses mains un petit papier et sa nourrice n'arrivait pas à le lui prendre. Sa mère lui a ouvert la main de force et elle a vu que le petit papier contenait ces mots « Ave Maria ». Et le petit Thomas réclamait le papier et quand il a pu le reprendre, il l'a avalé. Alors, demandons à saint Thomas de nous obtenir cette sagesse qu'il a puisée auprès de la Sainte Vierge Marie. Et disons avec lui cette prière qu'il a composée et qu'il récitait pour demander cette sagesse. Ô bienheureuse et très douce Vierge Marie, Mère de Dieu, trésor de toute bonté, fille du souverain roi, dominatrice des anges, mère du commun créateur, je jette dans le sein de votre miséricorde, aujourd'hui et tous les jours de ma vie, mon corps et mon âme, toutes mes actions, mes pensées, mes volontés, mes désirs, mes paroles, mes œuvres, toute ma vie et aussi ma mort, afin que par votre suffrage, tout cela tende au bien, selon la volonté de votre cher Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.